France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut en parler avant d'être concerné. C'est une évidence et pourtant pas encore un réflexe. Nous devrions mettre des mots sur le deuil, sur la perte d'un proche, sur la façon dont on souhaite organiser les funérailles avant que ce soit une urgence. Se renseigner avant, en parler avant. Des associations commencent à naître dans plusieurs villes de France pour s'attaquer à ce tabou solide, pour parler de la mort de façon légère et pour organiser des cafés mortels. C'est le cas à Valence, dans la Drôme, avec l'association Thanatosphère. Cette émission est préparée par Joseph Ascal et Sophie Hoffmann, avec l'aide de Jade Bellag. Loïs Moreau est à la technique. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Agathe Bénard.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes conseillère funéraire de profession. Vous avez créé une entreprise de pompes funèbres il y a 2 ans. C'est une reconversion. Et vous avez lancé en parallèle l'association Thanatosphère qui organise, grâce à des bénévoles, des cafés mortels, mais aussi des conférences et des ateliers baptisés « On ne mourra pas d'en parler ». Vous n'allez pas me contredire, Agathe, la mort, il faut absolument en parler avant de la côtoyer.
Ben oui, évidemment, parce qu'après, c'est un petit peu difficile. En tous les cas, on n'a pas tellement entendu ce que pouvaient en dire les gens. Donc, c'est nécessaire d'en parler avant, mais pas seulement d'en parler, on va dire, et c'est pour ça que Thanatosphère s'est constituée. On est dans la mouvance des associations d'éducation populaire, parce qu'on peut en parler, mais en même temps, si on n'a pas d'informations sur la législation, de ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, quels sont les droits des personnes en fin de vie, les droits de leurs proches également, ben en fait, ça peut être un peu étriqué ce qu'on a comme information. Donc, Thanatosphère, elle intervient, ben, vous en avez parlé, nos cafés mortels qui sont effectivement organisés par un réseau de bénévoles et par ailleurs, on fait intervenir des vrais professionnels qu'on veut vraiment professionnels, formés et expérimentés pour qu'ils puissent informer au plus près et d'une manière la plus concrète possible par rapport à la législation, par rapport à nos droits, par rapport à la réglementation et aux possibilités qui existent de manière à bah vraiment, voilà, on est dans l'idée de pour pouvoir faire des choix éclairés, il faut être informé en amont parce que comme voilà, elle exprime beaucoup les personnes qui ont vécu un deuil, on est dans un état de sidération qui même si on s'est un peu renseigné avant, si les choses n'ont pas été vraiment organisées, ben c'est un peu difficile de sortir la tête de l'eau et d'avoir un avis distancié, on va dire.
Vous parlez de sidération, il y a peut-être un parallèle à faire avec l'accouchement. Hein. Si on n'y a pas réfléchi avant, c'est compliqué de prendre des décisions au moment T.
Oui, c'est un peu pareil et aussi on peut paniquer sur des choses qui sont aussi normales. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est ben, il y a beaucoup de parallèles avec le monde de la naissance. D'un point de vue aussi Thanatosphère, on est vraiment dans l'émancipation et donc comment est-ce que les citoyens et les citoyennes se réapproprient ce moment-là de la vie, ces espaces de la vie, parce qu'il y a aussi les espaces de la mort, c'est aussi des espaces de parole, mais c'est aussi des espaces dans la société, au sein de nos institutions, des établissements sanitaires et sociaux et médicaux. Et donc de comment est-ce que en s'informant et on a plus la main finalement sur qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui peut nous arriver et de manière à avoir des témoignages pour pouvoir se projeter d'une certaine manière pour qu'on sache, par exemple, on organise régulièrement des ateliers sous forme d'ateliers ou de conférences sur le processus du deuil, comme ça, ça ne va pas enlever la souffrance, mais les gens savent qu'on est dans un processus normal en fait. Donc il n'y a pas d'inquiétude supplémentaire à avoir.
L'essor de ces cafés mortels en France est lié à un sociologue suisse, Bernard Crétaz, qui a publié un livre sur le sujet, Café mortel, sortir la mort du silence. Comment fonctionnent ces cafés mortels, Agathe? Quel est le principe?
Alors, c'est Bernard Créta qui l'a. Alors, on dit Créta, j'ai appris ça récemment,
pardon.
On ne prononce pas le Z. Non, mais pendant 2 ans, je l'ai prononcé avec ferveur, donc c'est terminé. J'ai rencontré un Suisse. donc, Bernard Créta, il invente ça parce qu'il considère qu'on ne voit plus la mort dans l'espace public et il trouve ça anormal, surtout qu'il vient d'une petite vallée où c'est assez simple. Voilà, dans les rites, il y a vraiment le moment du mourir et l'anticipation de ce moment-là avec le dîner funéraire, la veillée, tout ça, c'est vraiment constitué, structuré. journée, si vous voulez. Et donc, il se trouve qu'à Lausanne, elle est vraiment invisibilisée. Et donc, il décide, parce que je pense que c'était un bon vivant, de la mettre au café. Il organise ses cafés mortels. Pour lui, les cafés mortels, tels qu'il l'exprime dans son livre, nous, on suit les principes qu'il a développés. C'est vraiment un moment de témoignage de ses expériences personnelles, de son vécu. Ça permet, en fait, aux personnes de mettre en commun, au sens de mettre en commun, c'est-à-dire de partager. On va pas débattre, on va pas discuter, on va pas commenter, mais on va s'écouter les uns les autres, les unes les autres, sur qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a ressenti à des moments comme ça qu'on va documenter de notre vie. Donc nous, qu'est-ce que ça nous permet de voir, nous, écoutant ou participant au Café Mortel? D'une certaine manière, ça nous décentre, parce que tout d'un coup, on n'est plus dans nos logiques habituelles, des fois de réseau, de famille, de tout ça. On a la position d'une personne autre qu'on écoute, vu qu'on ne va pas pouvoir réagir à son témoignage. Donc on est vraiment dans une écoute très respectueuse, on va dire, comme on a de moins en moins l'habitude de s'écouter, je dois dire, dans la société. Et la personne va nous, comme ça, nous raconter alors une histoire avec laquelle on n'a aucune familiarité. Donc ça nous permet d'ouvrir le champ des possibles sur comment je réagis vis-à-vis de quelque chose qui m'affecte ou quelque chose que je dois prendre en charge ou ceci, et aussi comment est-ce qu'on peut faire les choses d'une manière que moi j'aurais pas imaginé. Donc tout d'un coup, ça remet du commun. Bernard Créteil, il parle de communautés éphémères. Voilà. Pendant le Café Mortel, on crée des communautés éphémères, et c'est des communautés éphémères d'humains mortels. C'est-à-dire, on a une destinée commune, c'est de passer par ce moment-là. Et donc, ça ramène aussi de la solidarité. On expose nos vulnérabilités, parce que c'est des moments qui sont forcément, ça peut être très douloureux, très affligeant, on va dire. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous rassemble tous, nous, êtres humains. Et donc, ça génère quelque chose de très bienveillant les uns les autres. Dans le Café Mortel, on peut pleurer, on peut rire, enfin voilà, c'est assez libre. En tous les cas, les émotions, elles sont libres de s'exprimer. Et les personnes peuvent, par exemple, pleurer en toute tranquillité. On a toujours des mouchoirs qui sont présentés comme un des outils, si vous voulez, d'organisation du Café Mortel. On a le livre de Bernard Créteil et une boîte de mouchoirs, et puis différents autres outils qu'on a évidemment développés. Mais ça permet vraiment de libérer le moment. Parler de soi, c'est aussi des fois s'exposer, et c'est pas dérangeant. Et on est dans un espace public, et il n'y a pas besoin d'être dans un environnement de confidentialité ou avec un professionnel pour peut-être participer à se libérer, s'alléger sur des témoignages importants.
La participation à ces cafés mortels est gratuite. Et vous le disiez, vous avez développé des outils, vous organisez des formations pour que d'autres cafés mortels voient le jour un peu partout.
Oui, comme on est une association d'éducation populaire, c'est vraiment la façon dont on est destiné à travailler. C'est notre ADN, on va dire. Et puis aussi parce que, la Drôme, vous savez, c'est grand. Il y a plein de, on est dans un territoire qui est aussi rural. Et assez rapidement, on a eu beaucoup de demandes pour les cafés mortels. Et on s'est dit, nous, si on a réussi à organiser nos cafés mortels, on était un groupe de 6 au début de l'association. Et il y a d'autres personnes qui doivent être en capacité de les organiser. Au début, on s'appelait animateur. Maintenant, on s'appelle organisateur, parce qu'en fait, il n'y a aucune animation de notre part. Et c'est en ça que c'est possible que d'autres personnes qui n'ont pas de bagage particulier, si vous voulez, d'un point de vue accompagnement des personnes en deuil, psychologie ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible, parce qu'en fait, leur rôle, c'est d'ouvrir le Café Mortel, de préciser la règle du jeu, les principes du Café Mortel, et de veiller à ce qui se passe dans le Café Mortel se relève véritablement du Café Mortel. Et sinon, c'est de leur rôle de rappeler les règles, de revenir, reprendre les personnes qui pourraient digresser ou pas vraiment avoir compris précisément la règle, par exemple, en intervenant sur le témoignage des uns des autres, en donnant leur avis, en illustrant ou en faisant un peu de prosélytisme pour leur propre soit profession, soit association, enfin des choses comme ça.
Et il y a du monde en général ?
Alors, il y a du monde dans les cafés mortels, oui, à minimum, c'est 3 personnes. Et jusqu'à maintenant, le plus gros qu'on ait organisé, c'est 85 personnes.
Ah oui.
Donc, c'est assez varié. C'est pas sur inscription, donc on sait jamais vraiment à l'avance comment les choses vont se passer. On est toujours 2 à organiser. Et dans ce que je vous disais pour ce réseau d'organisateurs de cafés mortels, c'est que ça permet aussi, du coup, à des personnes de se sentir plus libres, si vous voulez, sur ces thématiques. Et ils deviennent un peu personnes ressources, personnes à qui demander des informations pour leurs proches finalement, et c'est aussi de développer ce lien de proximité qui nous tient beaucoup à cœur.
Alors on le disait, en parallèle de ces espaces de témoignage que sont les cafés mortels, votre association Thanatosphère organise aussi des conférences et des ateliers. On ne mourra pas d'en parler, avec à chaque fois un thème précis. Est-ce que vous avez quelques exemples, Agathe ?
Oui, par exemple, les ateliers qui fonctionnent assez bien, c'est sur les directives anticipées et les dernières volontés. Par exemple, c'est sur la législation funéraire. Après, on peut avoir des conférences qui parlent de comment parler de la mort à ses proches. C'est des choses très pratico-pratiques. Au moment du printemps des cimetières, on fait énormément d'actions autour de la législation du cimetière, les concessions, voilà.
On pourrait vous répondre que toutes les infos sur le funéraire sont disponibles sur Internet. Hein, mais le problème, c'est que souvent, on se retrouve sur des sites marchands, des entreprises qui ont quelque chose à vendre.
Ben, c'est ça qu'on apprend tout de suite aux gens. C'est-à-dire, et c'est pour ça que Thanatosphère est une association et n'a aucun lien avec aucun service commercial, quel qu'il soit. C'est vraiment pour garder cette neutralité. On est neutre et apartisan. Et donc, on apprend aux gens à vraiment se référer au droit commun pour s'informer sur la fin de vie. C'est-à-dire que la CPAM, elle est concernée par la fin de vie. Les impôts, ils sont concernés par la fin de vie. Donc, on a déjà tout plein d'administrations qui, en fait, ont des documents. Il y a énormément, comme vous dites, beaucoup d'informations sur le net. Mais si vous commencez à chercher un mot-clé sans préciser le site sur lequel vous voulez être amené, vous allez effectivement avoir une quinzaine de pages de sites commerciaux qui, sous prétexte de vous informer, vont finalement vous amener vers un service marchand. Mais comme ça peut se passer, si vous voulez, si vous faisiez le parallèle avec la naissance, le monde de la naissance et de l'éducation, c'est extraordinairement marchand aussi. Et donc, il y a les mêmes pressions et ça peut être aussi difficile de trouver des informations de première main qui font qu'après, on considère que ce soit l'individu éclairé qui choisit, c'est pas le consommateur potentiel qui réagisse. Voilà.
Quelle est, d'après vous, l'information que les gens ne connaissent pas en matière de réglementation autour de la mort et que vous aimeriez diffuser aujourd'hui, Agathe ?
Alors moi, j'aimerais que les gens prennent l'habitude de partir du principe qu'ils, en général, ne savent rien, parce que les gens ont par réflexe la tendance de dire « c'est interdit ». On n'a pas le droit, c'est pas possible. Et donc, c'est-à-dire de eux-mêmes, ils vont fermer des possibilités. La législation funéraire, c'est en fait une législation qui est extraordinairement permissible. Il y a quelques principes, mais en fait, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, vous, famille, vous, proches. Et je pense que les gens ont vraiment pris l'habitude, on subit la mort, ça c'est sûr, mais on subit pas la manière dont les choses vont se passer au point de vue de l'accompagnement familial des proches et de ce qu'on peut mettre soi-même avant d'être une personne décédée, évidemment, en place. Et donc, voilà, de se dire qu'il y a pouvoir d'agir à ce moment-là de la vie, mais qui passe par, eh ben, en fait, aller se renseigner. Ce qui manque beaucoup, voilà, vous me permettez aussi de réfléchir, c'est qu'en fait, pour penser, il faut parler. On ne parle pas assez de la mort, donc on n'y pense pas assez d'une manière concrète. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, moi, de toute façon, je donne mon corps à la science, donc j'ai pas mes enfants, mes proches n'ont pas à se soucier de mes obsèques puisque je donne mon corps à la science. Mais en fait, si vous réfléchissez bien et si vous avez bien compris le processus, la science peut absolument, en fonction du contexte du décès et de leurs besoins à ce moment-là, refuser votre corps. Ça veut dire qu'au moment du décès, en fait, votre famille a toutes les questions à se poser, alors que vous étiez persuadé d'avoir trouvé la solution. Voilà. C'est ce genre de choses qui est très, très courant, en fait. C'est qu'on ne va pas jusqu'au bout du cheminement. Parce que le bout du cheminement, il est quand même hyper pas forcément sexy, ça peut être difficile, c'est qu'on est mort, voilà. Comment est-ce qu'on remet une action citoyenne, de la même manière qu'on le fait pour l'alimentation, pour l'environnement, pour l'éducation, sur le moment de la fin de vie, en fait, c'est ça notre ressort.
Et vous arrivez à en parler de manière tout à fait joyeuse, bravo pour ça.
Oui, et les gens sortent des ateliers vraiment légers et très curieux de, en fait, comment les choses se passent.
Association Thanatosphère, c'est à Valence. On trouvera toutes les infos sur votre site. Et je vois par exemple qu'un café mortel est prévu à Saint-Donat-sur-l'Herbasse dans la Drôme le 6 novembre, au café de la Rabasse, ou encore un autre à Valence, au Cause Toujours le 19 novembre. Un grand merci, Agathe Bénard.
Merci beaucoup pour votre intérêt, merci.
Et bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.